Interview.
RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Dans le cadre de notre convention avec le Centre de l'Aube, que maintenant vous commencez à suivre, je l'espère, chers auditeurs, nous recevons une nouvelle fois le docteur Hugues Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on suit toutes les activités du Centre de l'Aube qui concernent tout ce qui a...
Différents sujets, oui. Depuis, ça fait bientôt un an maintenant qu'on fait une fois par mois une soirée sur un thème. On en a parlé pas mal d'ici, d'ailleurs, un thème sur la sexualité, une fois, cette fois-ci sur le couple.
Est-ce qu'on peut donner une dénomination à votre pratique ? C'est quoi ? C'est un travail sur le psychologique, sur le...
Oui, sur la vie courante, mais dans le sens de ce qu'il a fait fonctionner, c'est-à-dire un peu nos états d'âme, la façon dont on fonctionne psychiquement, la façon dont on se rencontre, quelquefois on se rencontre avec difficulté ou pas. Enfin, c'est plutôt tout ce qui se passe au niveau psychique, comme vous le dites, oui.
Pour les auditeurs qui débarqueraient, on va faire rapidement un petit rappel de ce que vous êtes, docteur Rennes.
Ah oui, moi je suis donc gynécologue obstétricien, je travaillais longtemps à Grenoble, puis dans différents endroits, et puis maintenant donc, je m'occupe du Centre de l'Aube. J'y fais surtout de la préparation à l'accouchement, à la naissance et à la parentalité. Je m'occupe beaucoup de parentalité, de post-natal, aussi de sexualité, de ménopause, donc tout ce qui tourne autour de la gynéco-obstétrique. Avec, comme on le disait tout à l'heure, non pas que l'aspect technique, mais l'aspect technique plus l'aspect humain, l'expérience que constitue chacun de ces sujets, l'expérience que constitue la sexualité, la ménopause.
Donc on n'est pas dans une industrie au Centre de l'Aube.
Non.
On n'abat pas le patient.
Non, pas du tout. On discute, on parle, on essaie de se comprendre et d'échanger et d'apercevoir comment on pourrait bien traverser toutes ces expériences. Et on sait que le couple, ce n'est pas une expérience très simple.
Justement, donc, le couple. Alors, je prends mon petit papier devant moi. Ce jeudi 11 avril 2013 à 20h, vous proposez un documentaire fiction sans ces grandeurs du couple. À la fois la projection, une conférence et un débat. Alors, par quoi commence-t-on ? Peut-être une présentation
par le film ? Peut-être, oui. Oui. Le film, il a été tourné dans le but de montrer un petit peu comment, finalement, le couple se construit à travers la vie quotidienne. C'est-à-dire que ce ne sont pas les grands événements qui font l'histoire d'un couple, c'est la somme des petits événements. C'est-à-dire la somme des week-ends qui se passent bien ou qui ne se passent pas bien, la somme des semaines, des journées. Et donc, il y a un but dans ce film, c'est apercevoir le concret, ce qui fait le tissu de la vie, c'est-à-dire la relation quotidienne.
Parce que, là vous l'avez dit, il y a ce qui se passe bien et ce qui ne se passe pas bien.
Oui.
Mais souvent, quand même, on a l'idée que le couple se forge quand même dans une certaine forme de douleur. Et on est bien obligé à un moment donné de faire des concessions face à l'autre.
Tout à fait, c'est un sujet, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on commence un couple ou quand on commence sa vie amoureuse, on s'imagine que l'amour, ça va être une fusion totale, qu'on va se comprendre, qu'on ne va surtout pas faire comme ceux qui nous ont précédés ou nos parents en particulier, et que nous, on va trouver la fusion, l'entente, etc.
Ce que nous prouvent les 6 premiers mois en général.
Ce que, comme vous le dites tout à fait justement, ce que nous prouvent selon chacun les 6 premiers mois, les 3 premiers jours, les 10 premières années, ça dépend de la surdité qu'on a.
Oui.
Mais de toute façon, un jour, on se réveille et c'est normal parce que, en fait, il faut comprendre que quand on se met en couple, on rencontre d'abord, en tant qu'homme ou femme, l'autre sexe. Et l'autre sexe, il pense différemment, il vit différemment et il a un plaisir, si on parle de sexualité, un petit peu comme on l'avait évoqué la dernière fois, il a une approche du plaisir différente. Donc on rencontre un autre et cet autre, il fonctionne différemment, et c'est ça qui fait problème d'ailleurs.
On peut même aller plus loin, il est malheureusement élevé différemment aussi.
Oui, aussi, bien sûr, il y a la société, tout ça qui fait qu'il est différent. Alors, donc ça, c'est la première différence, elle est structurelle, je dirais, elle est sexuelle, et elle est qu'on n'a pas la même perception et la même façon d'apercevoir les choses et de décider devant cette perception. Et en plus, il y a quelque chose de très personnel, c'est-à-dire qu'il faut rentrer un peu plus dans le fonctionnement humain pour comprendre que chacun de nous perçoit, pense et décide en fonction de quelque chose qu'il croit libre, mais qui n'est pas libre, qui est lié à notre passé. C'est-à-dire que la façon dont nous avons vécu notre passé crée une personnalité, et à partir de cette personnalité, nous percevons les choses selon un point de vue.
Donc finalement, c'est le terrain qui fait tout, quoi.
Alors, c'est pas le terrain, il n'y a pas que ça. Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. Ça commence très tôt, ça commence à la naissance. Le psychisme humain commence à se construire même dans la vie intra-utérine, se construit par étapes, comme des couches, si vous voulez. Cet ensemble de couches va produire les êtres que nous sommes. Et ces êtres, ils perçoivent le monde selon un point de vue. Et le problème, ce n'est pas tellement ce point de vue, c'est que nous croyons que ce point de vue est juste et que les autres ont tort. Donc, c'est ça qui fait que ça fait vite problème. C'est-à-dire que, je dirais globalement, chacun pense que ce qu'il pense est juste et que ce que les pensent les autres est faux et qu'il faut arriver à le convaincre que ce qu'il pense est faux et qu'il pense de travers. Donc, c'est pas fini. Hein. Donc, vu le milliard de personnes qu'on est sur Terre, les quelques milliards que nous sommes, on n'a pas fini de s'affronter à l'autre et non pas de s'affronter, mais de rencontrer l'autre, ce qui est un grand bonheur en fait. C'est un peu tout le couple va produire quelque chose d'incroyable, c'est que finalement, l'autre dont on se méfiait, qu'on pensait qu'il n'était pas comme nous et qu'il ne pensait pas comme nous et que c'est nous qui avions raison, on va découvrir que sa façon de penser va compléter la nôtre. Et ça va être tout un programme dans le couple.
Est-ce que c'est cette recherche de complémentarité qui motive le fait que les gens aient envie d'être en couple ? Puisque là, on vient d'en décrire quand même tous les travers. Est-ce que c'est compliqué quand même de se torturer à ce point ?
Non, ce n'est pas qu'on se torture, c'est une progression. C'est-à-dire qu'en fait, on touche le fait que nous soyons séparés depuis... Alors ça, c'est un petit cours sur la vie embryonnaire que je vais vous faire vite fait. Mais jusqu'à 8 semaines de grossesse, nous étions complets. Nous n'étions pas déterminés sexuellement, par exemple. Et donc, nous avions la capacité d'être petit garçon ou petite fille, d'avoir les deux possibilités. Et puis, il y a un moment où c'est parti d'un côté et cette autre partie nous manque. Et donc, depuis cette séparation qui a eu lieu dans la vie intra-utérine, l'autre partie nous manque. En même temps, elle nous manque. En même temps, on ne la comprend plus. Et ça va être une reconquête de cette partie manquante. Donc, c'est pas... Alors, c'est vrai que ça, vous disiez tout à l'heure aussi, puis je suis un petit peu d'accord, c'est sur la douleur que ça se fait. Mais dans une douleur qui ne se referme pas, qui ne s'enquiste pas sur elle-même, mais qui essaie justement, à partir de cette douleur, de comprendre comment je fonctionne, comment je pense, comment fonctionne l'autre, comment il pense aussi, et essayer d'apercevoir que finalement, ces deux choses sont complémentaires.
Et dans le but de quoi ?
Eh bien, dans le but de rejoindre ce qui nous manque tant, cette partie manquante, bien sûr.
Et donc de vivre mieux.
Bien sûr, de mieux vivre avec soi-même et avec l'autre. Et puis, je me permets, vous avez abordé un sujet extrêmement important tout à l'heure, rapidement. C'est le fait que quand on vit en couple, eh bien, on a en même temps notre propre monde et nous n'avons pas à perdre notre propre monde. Et en même temps, on a le monde de l'autre. Et dans l'adolescence, quand les prémices du couple se préparent, je dirais, c'est l'enjeu fondamental. C'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment, quand on est adolescent, que si on va dans notre monde, on va risque de perdre l'autre. Si on dit, ben moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et l'autre ne pense pas comme ça, donc on va le perdre. Et si on va totalement dans son monde, on se perd soi-même. Et donc, tout un enjeu, en effet, et vous l'avez tout à fait bien évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'il va falloir apprendre à vivre avec notre monde et avec le monde de l'autre, sans perdre l'un, sans perdre l'autre, comme une complémentarité. Et ça prend du temps, et quelquefois, on n'y arrive pas. Et le problème du couple, c'est que c'est très difficile.
Que décrit ce film, justement là,
il faut comprendre la base, si je puis me permettre, théorique qui soutient ce film et qui essaye de le montrer de façon très directe. C'est que la perception, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une perception des choses, nous percevons à partir d'un passé. Je prends un exemple très simple, et pour vous faire sentir ça, j'en prendrai qu'un, et qui a trait à mon travail, dans ma profession de gynécologue obstétricien. Si une femme est infertile, qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, ça fait 5 ans qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, et qu'elle continue à souffrir de cette absence d'enfant, qu'elle n'en a pas, et qu'elle ne trouve pas de solution autre, eh bien, chaque fois qu'elle voit une femme enceinte, elle souffre parce que ça lui rappelle qu'elle n'est pas enceinte, et chaque fois qu'elle croise un enfant, ça lui rappelle qu'elle n'a pas d'enfant. Ce qui fait dire qu'elle perçoit cette femme enceinte et cet enfant comme des occasions de douleur. Donc, elle se coupe en même temps de cette femme enceinte et de cet enfant. C'est-à-dire qu'elle a une relation fausse parce qu'elle pourrait très bien, cette femme enceinte est peut-être très sympathique et elle pourrait avoir une très bonne relation avec, et elle ne l'a pas. C'est-à-dire que nos perceptions douloureuses produisent une rupture dans le présent. Et donc, ce que montre ce film, c'est que les petits agacements du couple sont liés à l'histoire de chacun et que chacun s'agace à partir de quelque chose dont il est innocent parce que ça s'est construit comme ça dans son passé, mais dont il est responsable parce qu'il pourrait s'apaiser avec ce passé dans l'instant pour bien vivre l'instant présent. Donc en fait, c'est vraiment... On a vu tout à l'heure que ça part sur de la douleur au départ, mais en fait, le but, c'est d'être plus en paix avec soi-même et avec l'autre, bien évidemment.
Donc on passe par des phases d'acceptation de cette différence pour après se dire, non mais en fait, je dois passer à autre chose, quoi.
Il faut d'abord accepter une première chose, c'est que tout ce qui concerne nos goûts, nos dégoûts, ce qu'on pense, etc., appartient à notre personnalité, mais n'est pas une vérité en soi. C'est-à-dire, je ne devrais jamais dire « c'est bien, c'est pas bien ». Je devrais dire « j'aime, j'aime pas ». Mais dire ce plat est bon ou ce plat n'est pas bon, enfin, à part vraiment si c'est complètement cuit ou trop salé ou je ne sais pas, oui, c'est évident. Mais si vous êtes dans une assemblée où on mange, eh bien, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Mais ce n'est pas que c'est bon ou que ce n'est pas bon, c'est que j'aime ou j'aime pas, ce qui est différent. Ce qui veut dire que déjà, on comprend que tout ce qui construit nos goûts et nos dégoûts parle de nous-mêmes, parle de notre personnalité. C'est une connaissance de soi, respectable. Mais cette connaissance de soi ne justifie pas qu'on dise que c'est la vérité. Et que donc on peut être curieux de comment pense l'autre, comment vit l'autre, comment construit l'autre.
Alors est-ce que la cellule couple n'est pas, au regard de ce que vous nous décrivez, ou à l'écoute plutôt, la première instance de médecine psychologique en fait, hein ?
Ah c'est sûr, là vous avez raison. Ouais.
C'est-à-dire c'est qu'on sûr. Se fait soi-même, on est ses propres psys constamment.
Ben oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une espèce de psychothérapie naturelle qui fait que si on ne dépasse pas cette dimension, le plus souvent, le prince et la princesse charmante des premiers jours se transforment en prince noir et fée carabosse et ça termine mal. Et regardez comme c'est amusant même de voir les choses selon ce point de vue parce qu'au moment où on se sépare de celle qu'on a tant aimée en pensant que vraiment c'est la pire et qu'on s'est beaucoup trompé, il y a un autre prince qui passe et qui la trouve magnifique. Donc toute l'histoire recommence et on se demande qui c'est qui a raison. Est-ce vraiment dans l'instant une fée carabosse depuis notre point de vue ou est-ce une princesse charmante depuis le point de vue de cet autre prince charmant un temps qui passe à côté.
Si on garde encore une fois ce point de vue de cellules psychologiques, comment expliquer qu'il y a de plus en plus de ruptures maintenant ? Est-ce que parce que ça n'était pas pris de cette manière-là avant ? Peut-être qu'il n'y avait pas cet échange psychologique avant. Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'en a plus envie ou on a envie de changer tout le temps de psy enfin,
alors, oui. Alors, il y a deux choses. C'est qu'avant, il y avait, on va dire, des règles morales qui étaient beaucoup plus solides. C'était moins de liberté, mais c'était en même temps des règles de société qui faisaient que c'était mal vu de se séparer, c'était mal vu de divorcer, c'était mal vu d'aller ailleurs. C'était des choses qui étaient... Donc, qui maintenaient, un peu artificiellement, j'en conviens, mais qui maintenaient le couple. Là, on est beaucoup plus libre. Mais en même temps, ce qui se passe, c'est qu'on est devenu un peu plus égoïste aussi. C'est-à-dire que chacun, dès que ça ne va pas, il dit bah, « écoute, non, moi, j'ai pas envie de faire d'efforts ». C'est-à-dire qu'on est un peu dans la loi du moindre effort. Et donc, on est capable de changer comme ça, dès que ça nous agace. Au lieu de se dire « il faut que cet agacement, j'en fasse quelque chose », c'est « je préfère ne pas voir l'agacement et changer de partenaire ». C'est-à-dire qu'en fait, le partenaire est un miroir de nous-mêmes, qu'on accepte ou pas. Si on ne veut pas voir le miroir, bah, en fait, on se fuit soi-même. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile et qu'il n'y a pas des fois où il faut se séparer. J'ai jamais dit ça. Hein. Oui. Chaque histoire est unique et des fois, on fait comme on peut. J'en sais quelque chose. Donc, je n'ai pas de leçon à donner personnelle. Je dis juste que je bataille comme tout le monde, que j'essaye et que ce n'est pas simple.
Oui. C'est pas simple d'aller chez le psy non plus.
Non. Hein.
On en revient un peu à cette douleur quand même.
Hein. Oui.
Non, et je suis tout à fait pour le couple. Hein. Les auditeurs le savent. Je ne vais pas commencer à détruire. Mais enfin, c'est quelque chose à titiller.
Mais j'aime bien cette image que vous dites, hein, que c'est finalement une psychothérapie. C'est vraiment ça. Hein. On choisit l'autre. Peut-être, ce serait intéressant d'ailleurs de voir comment on choisit l'autre, mais peut-être comme notre meilleur psychothérapeute, on ne sait pas, mais naturel, sans avoir à payer. Enfin, si, on paye un peu.
Ben justement, si, il faut payer parce que sinon, on se sépare.
Hein. Et oui, c'est ça.
C'est bien
c'est ça.
Ça
ouais.
Il faut payer de sa personne.
Mais ceci dit, il faut aussi comprendre que c'est une nouvelle maturité de l'amour humain, parce que s'imaginer que l'amour, c'est que l'autre est parfait, que je suis parfait, que tout le monde est parfait, que c'est l'amour idéalisé, c'est très enfantin, c'est l'amour adolescent. Et que peut-être commencer à découvrir une certaine tendresse sur nos maladresse sur nos imperfections, une tendresse pour soi et pour l'autre, et comprendre que on a le droit de penser comme ça, mais que c'est pas la vérité, qu'on a le droit de se tromper, que c'est pas grave, à condition d'en convenir et pas vouloir tenir coûte que coûte des positions qui sont, on le sait en nous-mêmes, quelque chose nous dit, on a une mesure qui nous dit c'est faux ce que tu fais, mais on y tient coûte que coûte pour défendre, comme si on avait un territoire à défendre contre l'autre, alors que non, on a le droit d'être comme nous sommes, mais pas l'imposer comme vérité. On en revient toujours à ça.
On a focalisé sur le couple sexué, le ménage, on va dire, qu'il soit homosexuel ou pas d'ailleurs.
Bien sûr.
Mais c'est un petit peu la même chose qui peut se passer avec les vrais amis ou les relations proches, enfin ceux avec qui on travaille parfois.
Oui,
il faut
bien
quand
sûr.
Même avoir aussi ce voilà. degré. Donc le couple est un peu partout quand même.
Oui, bien sûr. Alors bien sûr que, comme vous le dites, c'est beaucoup plus général que ça, mais le couple, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des enjeux importants. C'est-à-dire que dans le travail, on peut un peu se faire la tête et puis continuer à bosser ensemble.
Ça ne dure pas très longtemps quand même.
Ça ne dure pas très longtemps, oui, ça devient un peu tendu. Oui, c'est sûr,
ouais.
C'est sûr. Plus on est proche, plus c'est difficile. Mais dans le couple, il y a un autre enjeu, c'est que quand même, il y a en nous le désir sexuel, le désir d'avoir du plaisir avec le corps de l'autre. Et on sait très très bien que si on s'engueule toute la journée, journée, il n'y aura pas possibilité, quoi. Et donc, on sait bien qu'il faut passer par la tendresse pour avoir aussi du plaisir avec l'autre.
Et ça, c'est la clé de voûte du ménage.
Oui, oui, oui. Tendresse pour soi et pour l'autre. Compréhension que c'est notre monde et qu'on y a droit, mais que ce n'est pas le monde, et que l'autre a aussi son monde et qu'il y a droit, et qu'il va falloir qu'on fasse avec les deux, qu'on se comprenne et qu'on ait beaucoup de tendresse parce qu'on est tous très maladroits.
Et alors donc c'est à la fois psy, mais à la fois très bestial aussi, puisque oui. Il y a ce besoin sexuel.
Animal, bien animal, sûr. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Il y a ce désir asexuel sous-jacent et qui est très important et qui est le désir de rencontrer l'autre dans une... La sexualité, c'est une rencontre non seulement où on est à nu physiquement mais psychiquement, c'est quelque chose qui est très complexe et qui demande une grande confiance. Et on comprend bien que s'il n'y a pas une confiance parce qu'il y a de la tendresse dans la journée, cette confiance n'aura pas lieu et donc la sexualité sera moins épanouie. Les deux se tiennent, les deux sont... L'un est presque le résumé de l'autre, je dirais. La sexualité, c'est résume la façon dont nous sommes dans la vie quotidienne.
J'allais citer des exemples, mais c'est pas le bon moment.
Ah, d'accord.
Ce serait dommage pour certaines personnes qui peut-être ne vivent pas bien correctement leur couple, effectivement.
Mais vous savez, là je crois qu'il faut être très... Là, on essaie de donner des principes généraux, mais je crois que rien n'est très simple et que je crois que quelles que soient les difficultés qu'on a, on n'est pas condamné pour ça. On a pu se tromper de nombreuses fois, on a pu faire ce qu'on veut. Moi, je me suis trompé, donc j'accueille tous ceux qui se sont trompés et j'en suis le premier. Et puis, et je crois que voilà, c'est ça, on est où on est et l'important, c'est d'essayer de faire un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire dans quelque chose qui se comprend mieux soi-même et qui comprend mieux l'autre, où qu'on soit. Il y a une phrase comme ça d'une sage indienne qui disait « Où que tu sois, c'est là que commence le chemin. » Et c'est le « où que tu sois » qui est important. Parce que ce qui est important, c'est de savoir où on est, c'est pas où on est.
Où on être, donc, pour une traduction. Ce film, justement, parle aussi de cette possibilité de rupture et donc de se tromper.
Bien sûr.
Et de devoir passer à autre chose.
Alors ce film, il est fait donc en même temps d'une fiction qui raconte un peu ces difficultés du couple au quotidien et comment on peut les franchir. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le film, ça part un peu de travers. Puis après, chacun fait justement ce travail psychique dont vous avez très bien parlé et qui montre comment on peut aller dans quelque chose qui se comprend mieux soi-même et comprend mieux l'autre et rencontre mieux l'autre. Et puis il y a des interviews de gens qui sont connus pour avoir une connaissance du couple et qui vont émailler ce film d'un certain nombre de témoignages extrêmement intéressants. Je pense à Catherine Solano qui est très connue par rapport à son approche de la sexualité, puis il y a plein d'autres. Il y a Arnaud Desjardins qui est décédé mais qui avait donc quand même une certaine... qui était très connu en France pour son approche du monde psychique et surtout de la vie spirituelle. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui viennent témoigner, qui donnent des choses très intéressantes, des éclairages très intéressants sur le couple.
Cette projection est suivie d'une conférence débat. Alors là, c'est vous qui êtes en jeu, c'est cela ?
Non, alors la conférence, ça va être très court. C'est-à-dire que je vais dire trois mots d'introduction et après, on va passer au débat. Parce que je crois que le film, il dit à peu près tout. Donc s'il y a besoin d'explications sur le film à travers quelques questions, eh bien, j'essaierai d'expliquer comme ici, on en parle ensemble. Donc sous cette forme très, très libre. Et puis ensuite, on passera un petit peu au témoignage de chacun, ce qu'il en pense, les questions que ça lui pose. Donc moi, j'essaierai juste peut-être de décoder le film s'il y avait quelques questions ou quelque chose qui n'avait pas été compris du public.
Alors, vous venez à peine de l'aborder, mais c'est cela que vous attendez de ce débat, c'est-à-dire que des gens apportent des témoignages et peut-être se livrent un petit peu.
Oui, mais enfin, qui se livrent, chacun fait comme il veut. Je pense que ce qui compte, c'est redonner de l'espoir, parce que je pense que justement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui ont tellement bataillé avec le couple, qui pensent que bah, finalement, ils sont peut-être bons à rien là-dedans, et je n'y crois pas du tout. Je crois qu'on a toujours le droit de se tromper, on a toujours le droit de repartir d'où on est, de faire un pas. Et moi, c'est plutôt quelque chose qui donne de l'espoir. Tout ce que nous faisons, c'est quelque chose qui donne de l'espoir à tous ceux justement qui se sentent finalement pas très adroits. Je dis que je suis avec eux parce que je suis maladroit dans tous ces secteurs aussi. J'essaye, mais je suis aussi maladroit. Et donc bienvenue aux maladroits.
Voilà. Comment un maladroit ose-t-il prendre la parole dans une assemblée comme ça ?
Ah ben c'est simple, c'est moi qui commence à dire ma maladresse et donc après ça se fait tout seul. On peut jamais demander aux gens de faire quelque chose, on peut le faire soi et ça ouvre.
C'est pas mal. Donc nous avons la technique du docteur Venn.
C'était vrai maladresse, hein, elles ne sont pas inventées, hein, les miennes.
Ah oui, oui, non, mais tout à fait, bah, heureusement. D'ailleurs, oui. C'est ce qu'on dit, hein, les meilleurs éducateurs sont ceux qui ont vécu.
Oui, qui ont vécu, qui se sont beaucoup trompés et qui, du coup, savent bien décrire par où il faut passer. Et qui ont beaucoup de patience parce qu'il en a fallu beaucoup avec eux-mêmes.
Donc, de la patience vous sera donnée ce 11 avril 2013 à partir de 20h. Donc, après ce film, je le redis, donc, Sens et grandeur du couple, un documentaire fiction de Jean-Claude Duret. C'est au centre de l'Aube.
Voilà, à Piégro-la-Clastre.
À Piégro-la-Clastre.
Il y a un site de l'Aube, éventuellement, si les gens veulent des renseignements.
Oui.
qui est www.aube-association.com. Voilà, et puis...
On mettra les liens sur le site internet.
Pas de problème, voilà.
Il y a y compris un lien directement vers ce film aussi.
Oui, voilà, ceux qui veulent, ils peuvent aller voir un petit peu. Il y a une page internet sur ce film avec un petit peu une description, une bande générique. Donc ceux qui veulent un petit peu avant de venir avoir une idée de ce qui va se dire et se projeter, ils peuvent tout à fait utiliser ce lien.
Alors il y a une participation aux frais de 5 euros. Le Centre de l'Aube peut accueillir beaucoup de monde.
Accueillir beaucoup. Oui, alors les 5 euros, c'est vraiment parce que ce film a coûté assez cher au réalisateur, donc on lui doit une participation tout à fait normale. Et nous, au-delà de ça, on paye un petit pot après, donc vous voyez.
C'était simplement pour dire, voilà, s'il y a une entrée, souvent on a aussi un nombre de places qui parfois peut être limité. Faut-il s'inscrire?
Notre salle fait 100 mètres carrés, donc c'est vrai qu'après...
On peut y aller.
On peut quand même y aller, mais il n'y a pas de problème. Ouais.
Donc au pire, un numéro de téléphone, bien sûr, le 04 75 40 03 24, tout ça sur le site internet.
Oui, la permanence est de 12h30 à 14h, donc c'est un petit peu court, mais vous pouvez de toute façon venir directement le 11 sans prendre rendez-vous, sans rien.
Ça ira.
Nous vous accueillons.
Et puis, peut-être pour terminer, quels sont très rapidement les prochains rendez-vous? Quand vous revoit-on et pourquoi?
Alors, on a donc, après ce jeudi 11 avril, on a le 30 mai. Un sujet que moi j'aime bien, c'est connaissance de soi. Vous savez, on parle de connaissance de soi, de développement personnel, de psychologie, de vie spirituelle. Et je me suis dit, ça serait bien que quelqu'un vienne nous faire un peu le point de tout ça. C'est comment s'y retrouver dans tous ces termes. Et puis, voilà, qu'on comprenne un peu mieux ces différentes appellations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça constitue? Pourquoi différents mots pour parler de la vie intérieure? Bon.
Donc c'est fin mai, alors à la prochaine.
Voilà.
Et en attendant, rendez-vous ce 11 avril à 20h. Merci Ugraine,
merci
docteur.
Beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Jean-Claude Duret, vous êtes le réalisateur du documentaire fiction, Sens et grandeur du couple, qui va passer donc jeudi 11 avril 2013 à 20h au Centre de l'Aube. Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez nous présenter un petit peu votre démarche?
Alors d'une manière générale, je produis, je réalise des films qui contiennent un message spirituel, une dimension spirituelle, humaniste. Et j'ai voulu montrer que le problème du couple aujourd'hui dans nos sociétés occidentales était un véritable fléau, puisque maintenant il y a plus de divorces que de mariages. Donc il y a un vrai problème. Et donc c'était s'interroger et interviewer des experts pour avoir leur avis sur le sens de ces problèmes que rencontre le couple aujourd'hui.
Comment vous avez procédé? Il y a une partie donc documentaire et une partie fictionnelle. Cette partie fictionnelle, par exemple, vous appuyez sur quoi?
Je dirais que, en fait, c'est quand même assez autobiographique parce que les scènes que j'ai écrites et qu'on voit dans le film, donc c'est un couple, un homme et une femme, qui vont se heurter au tracas de la vie quotidienne, aux petits agacements, aux nombreux petits agacements. Et donc moi, j'ai traversé ça moi-même dans ma vie de couple. Et comme j'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de me poser des questions suite à un divorce, j'ai entamé une démarche spirituelle qui m'a conduit à avoir un autre regard sur le monde, un autre regard sur l'autre et un autre regard sur moi-même. Et donc ce qui m'a permis de transformer des situations un petit peu lourdes, un petit peu difficiles, mais en même temps ordinaires, dans des opportunités de rapprochement, de mieux dire je t'aime à sa femme. Voilà.
Cette partie autobiographique inspire donc la fiction. Et puis vous avez développé une partie documentaire, elle par contre donc avec un certain nombre de professionnels, hein,
d'intervenants, oui.
Et d'intervenants. Là, quelle était la démarche alors?
La démarche était d'avoir un registre assez large des différents points de vue. C'est pour ça qu'on a dans ce documentaire, par exemple, le célèbre sociologue Jean-Claude Kaufmann. Nous avons Catherine Solano, le médecin spécialiste du sexe. Nous avons une conseillère familiale, Jocelyne Dahan, et nous avons deux experts, je dirais, à dimension spirituelle, que sont Arnaud Desjardins que j'ai interviewé d'ailleurs 6 mois avant sa disparition, sa mort, et également Bernard Montault, psychanalyste corporel. Donc le but, c'était d'avoir un panel des différents regards, des différents points de vue, des différentes solutions apportées par les uns ou par les autres. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ce soit la dimension sociologique, psychologique ou spirituelle, eh bien, tous les points de vue convergent vers un même point, c'est-à-dire apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer soi-même dans nos imperfections pour mieux aimer l'autre. C'est ça qui était très intéressant dans tout ça, finalement.
Et c'est d'ailleurs bien ce qu'a décrit le docteur Hugren précédemment dans l'interview. C'est cette recherche de soi-même et cette meilleure connaissance de soi qui permet d'appréhender la seconde personne avec qui on a choisi de vivre.
Ouais, voilà, comme le dit par exemple Bernard Montault dans le film, il y a une phrase où il dit, en fait, on choisit l'autre, donc celui qui va nous emmerder le plus l'existence. Inconsciemment, bien évidemment, inconsciemment. Et si on observe bien, on épouse toujours des opposés. Alors qui, pendant toute une période de grâce qui dure plus ou moins longtemps, suivant les couples, où tout va être magnifique, et puis après, c'est pas que l'autre change, mais on s'aperçoit que l'autre, ben, il a pas que des qualités, il a aussi des défauts. Et dans une deuxième partie du couple, il va falloir apprendre justement à vivre avec les défauts de l'autre, parce que vivre avec les qualités de l'autre, c'est pas une très grande performance. Par contre, essayer de vivre avec les imperfections de l'autre, alors ça, c'est un véritable enjeu, et on ne peut le faire qu'à partir du moment où on se reconnaît nous-mêmes dans une imperfection et qu'on apprend à s'aimer dans cette imperfection, dans nos petits travers, dans nos défauts. Alors, puisque nous avons quitté le jugement sur nous-mêmes, nous allons quitter ce jugement sur l'autre et nous allons pouvoir aimer l'autre à sa juste valeur.
Ce film que vous avez fait, Jean-Claude Duré, donne-t-il des solutions ou est-il simplement là pour nous amener à la réflexion que vous venez d'apporter ?
Alors deux choses. Je pense qu'il apporte un goût, c'est-à-dire une perspective, un espoir, c'est-à-dire ce documentaire montre que, c'est pas un scoop ceci dit, hein, mais le couple c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour tout le monde. Deux, il y a des solutions et que ce n'est pas une fatalité, et ça c'est déjà énorme, parce qu'on croit, on pourrait penser que c'est une fatalité, quoi. Hein. Finalement, un couple, d'ailleurs il y a eu un film qui est récemment, ou il y a un an ou deux, qui disait « L'amour ne dure que 3 ans », je crois, quelque chose comme ça.
Oui, c'est le titre du film.
Et troisièmement, forcément, si on veut apprendre à vivre en paix le plus possible et en harmonie avec les autres, eh bien, ça commence par soi-même. Et donc, c'est une grande leçon, je dirais, d'espoir, et qui donne des, non pas des recettes, mais des directions, puisque dans la fiction, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce couple qui se déchire, qui se chamaille, et on comprend les raisons pour lesquelles, comment, par quels endroits ils vont passer pour se retourner intérieurement et choisir la paix au lieu de subir la guerre. Donc il y a des exemples concrets que tout le monde pourrait mettre en place dès le lendemain de la vision du film.
Non pas des solutions, mais des directions. J'aime bien le terme que vous avez employé. D'un point de vue purement, comment dit-on, mise en scène, comment le film est ventilé ? On passe de scènes de fiction à ces professionnels qui nous expliquent comment c'est fait ?
Oui, c'est ça. C'est une alternance d'un discours, d'intervenants illustrés par une fiction à 4 reprises qui illustre le propos des experts et les experts illustrent ce qui se passe dans la fiction. Donc on comprend ce qui se passe, on a le décodage de ce qui se passe dans la fiction.
Vous nous expliquez en début de l'entretien que vous réalisez toujours des films avec un message. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques autres de vos films ?
Actuellement, je suis en train de réaliser un film sur l'ange aujourd'hui. L'ange dans la chrétienté aujourd'hui, avec différents intervenants qui vont évoquer ce sujet, non pas dans une dimension comment dire, folklorique ou New Age, mais dans quelque chose, dans un discours extrêmement sérieux. Donc, il y a des théologiens de grande pointure qui nous parlent de l'ange, un psychanalyste, une femme, Annick de Souzenel également, etc. Donc, même chose, le but, c'est de donner du sens à cette espèce d'engouement qu'on peut noter depuis un certain nombre d'années déjà, vers cette dimension invisible de la chrétienté. Et donc, voilà, donc c'est un film. Là, je vais sortir en juin un autre documentaire sur Kitamalas raconté par Bernard Montault, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un amour spirituel, un documentaire qui dure 1h12. Voilà, donc j'ai un certain nombre de choses comme ça. Oui, parce que ce qui m'importe, moi, c'est de montrer la dimension spirituelle de l'homme, dans l'ordinaire et dans le concret, accessible.
Vos documentaires passent où ? Est-il possible, bien sûr, là, si quelqu'un nous entend, de faire des projections lui aussi ?
Déjà, il faudrait me demander par m'envoyer un mail, et ce film est disponible sur deux sites, le site www.editas.fr et sur le site www.filmdocumentaire.com. Le couple, par exemple, ce film, il a été acheté par la télévision suisse, donc il est passé à la télévision suisse en juin dernier, avec deux diffusions, et donc la prochaine, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va avoir lieu.
Un petit mot sur ce travail de réalisateur de documentaire, vous en vivez ?
Non, je n'en vis pas. Je n'en vis pas. C'est avant tout une passion, avant tout quelque chose que j'ai envie de faire connaître, des choses qui me concernent. J'ai la chance d'avoir un autre métier, je suis psychanalyste corporel, et donc je marie ces deux activités. Et l'activité production de films ne me fait pas vivre, non. J'essaye de perdre le moins d'argent possible, en fait.
Écoutez, ce sera la conclusion. Il y a également un site internet spécialement dédié à ce film Sens et grandeur du couple, .com.
Oui, Sens et grandeur du couple, tout attaché, .com. Oui, c'est exact.
Je vous remercie, Jean-Claude Duret, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, vous serez là à la projection du 11 avril ?
Non, malheureusement, non, je ne serai pas disponible ce soir-là.
Eh bien, on invite quand même les auditeurs à aller voir votre film
bien
avec
sûr.
Le docteur Rennes.
Merci de m'avoir reçu. À bientôt, au revoir.
Au revoir.
L'interview du jour.